L'une des causes les plus fréquentes d'épuisement, de burn-out, de dépression ou d'anxiété que je constate dans mon bureau, c'est l'incapacité à prendre une décision. Que ce soit concernant le couple, le travail ou autre chose, les gens sont figés entre deux possibilités qui apportent chacune leur lot de bienfaits et de souffrances. Cette indécision peut durer des semaines, des mois, voire des années. La quantité d'énergie gaspillée dans cet état d'incertitude vide les personnes et les amène à l'effondrement. Comment faire pour sortir de ce figement et prendre la meilleure décision pour nous? Bienvenue dans Hypnoconscience. J'appelle ça le syndrome de la mouche, comme elle qui se frappe à la fenêtre puis à la porte patio pour revenir à la fenêtre et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement. Notre esprit évalue une situation et puis l'autre dans un cycle interminable d'évaluation de risque jusqu'à ce que la fumée nous sorte par les oreilles. Oh, que c'est une situation fréquente, je vois beaucoup ça dans mes clients, je l'ai vécu moi-même, l'incapacité de prendre une décision par peur de se tromper ou par peur de souffrir. Parfois, les gens le savent ce qui est bon pour eux autres, mais sont tout simplement incapables de le faire par peur de se tromper ou par peur de souffrir. Je vois des gens, puis récemment, c'était beaucoup par rapport au couple, des gens qui viennent me voir, qui remettent tout en question, que ça fait des mois, voire des années qu'ils se demandent « Est-ce que je reste dans mon couple? Est-ce que je le quitte? » Ils sont pas bien, hein, parce que s'ils se posent la question, on a en quelque part déjà un petit peu la réponse. La personne, elle est tout simplement pas bien. Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter ou rester? Des fois, c'est pas la question à se poser. Il y a beaucoup de choses à valider entre les deux dans les zones grises, voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer la communication, d'améliorer les prises de conscience, etc. Mais tout ça, souvent, ça nécessite l'intervention d'une personne extérieure neutre, donc ça nécessite de consulter, soit en individuel, soit en couple. Mais ce que j'ai vu pas mal récemment, c'est des femmes qui sont aux prises et qui me contactent parce que j'en parle souvent, les situations toxiques, les situations où on est avec quelqu'un qui crée de l'oppression, hein, qui a un contrôle sur nous autres par la manipulation émotive, par culpabilité ou par peur et qui nous empêche de nous épanouir. Et ces femmes-là me décrivent le comportement du dit conjoint qui est littéralement inacceptable. Mais face à cette évidence-là, que leur place n'est plus là, ben ils vont camoufler ça d'une belle intellectualisation, une belle rationalisation, hein, qui est un mécanisme de défense, dans le but de ne pas faire face à cette évidence-là qu'ils ne sont pas bien puis qu'elles doivent quitter. Ce qui fait qu'elles vont me décrire leur comportement et tout ça, et pour finir par dire « oui, mais dans le fond, tu sais, c'est un bon gars ». Oui, mais dans le fond, tu sais, c'est un bon père. Mais la question n'est pas là. Dans la vie, il n'y a rien de noir ou blanc. Je le dis souvent, même probablement le plus grand des tueurs en série a probablement déjà rendu des services et sa voisine a probablement trouvé que c'était un bon gars parce qu'il l'avait aidé à rentrer son épicerie, par exemple. La question, c'est pas de juger de la personne ou de juger de l'emploi qu'on veut quitter ou de juger de ce qui est extérieur. La question, c'est de savoir si ça nous convient. Malheureusement, les gens perçoivent ça souvent comme une punition qu'ils vont infliger à l'autre s'ils quittent. Mais c'est pas ça. L'idée, c'est de se demander, est-ce que moi, je suis bien? Moi, mon exemple à moi, c'était dans... Lorsque je travaillais au RTC, j'en ai déjà parlé. Pendant des mois, je me demandais est-ce que je quitte, est-ce que je reste, j'étais malheureux, j'en pleurais sur l'autobus, je passais ma vie comme la mouche à me frapper dans « oui, je reste, c'est sécuritaire pour moi, j'ai le fonds de pension et tout ça ». Mais là, j'étais mis à l'évidence que j'étais pas du tout heureux dans cet emploi-là, donc là, je me disais « ok, je quitte », et là, je préparais mon esprit à quitter. Mais là, je faisais face à toute l'insécurité, toute la culpabilité, parce que je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire subir à mes enfants si tout à coup j'ai plus de sécurité d'emploi, si tout d'un coup je gagne pas assez d'argent et tout ça. Et là, j'étais totalement désemparé pour finir en burn-out total, alors que j'avais pas du tout pris aucune décision. L'indécision est très souvent plus souffrante à long terme que le choix lui-même, peu importe le choix qu'on va prendre, même si on se trompe. Mon nom, c'est Pascal Brousseau. Si tu ne me connais pas, je t'invite à aller visiter mon site internet pascalbrousseau.com et je t'invite à partager cet épisode-là autour de toi, sur les réseaux sociaux, à des amis en direct, à leur en parler si tu penses que ça peut les aider. Si tu connais une personne qui est aux prises avec cette situation-là où elle est incapable de prendre une décision et cette indécision-là l'amène littéralement au burn-out et est en train de la brûler et de stagner complètement sa vie, son évolution et son épanouissement. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on stagne comme ça, et je l'ai vécu, c'est qu'on est à la recherche de la solution parfaite sans souffrance. Et malheureusement, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer là maintenant. Cette voie-là, elle n'existe pas. La voie qui va donner absolument aucune souffrance, qui va être parfaite et qui va te donner la certitude de ne pas commettre d'erreur, elle n'existe pas. Fait qu'en partant de là, juste ça devrait faire l'épisode. Ça devrait faire l'émission, puis ça devrait te permettre de prendre une décision, de dire, bon, ben, si elle n'existe pas, il faut que j'en prenne une qui n'est pas parfaite. Parce que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est renoncer. Et automatiquement, lorsqu'on parle de renoncer, ben, il y a des émotions derrière. Il va y avoir des deuils à faire. Il va y avoir de la souffrance. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire ce cheminement-là, ce choix-là? C'est toujours les mêmes deux émotions qui sont cachées derrière que je te parle toujours, soit la peur et la culpabilité. La culpabilité, je t'en ai déjà en masse parlé dans les derniers épisodes. Je t'invite à les réécouter si tu ne l'as pas fait ou même si tu l'as déjà fait parce que je ne m'attarderai pas à ça. Mais comme je te donnais dans mon exemple, moi, je ne prenais pas de décision parce que je me sentais coupable face à mes enfants de risquer de les priver d'une certaine sécurité et d'abondance financière. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais en train de mourir. Et j'étais rendu même au point à me dire, écoute, si c'est ça la vie, j'aime mieux mourir. Et comme ça, si je meurs, ben, au moins mes enfants vont avoir toutes les assurances et tout ça, la maison va se retrouver payée. Fait que mon rôle de pourvoyeur va être fait, puis moi, je vais arrêter de souffrir. Mais en fait, la solution n'était pas là. Ça n'avait absolument aucun sens de penser comme ça. La peur, elle, c'est une question beaucoup d'associations. Bon, je te disais la culpabilité, écoute les autres épisodes parce que c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de choses à faire pour faire face à la culpabilité que je n'aborderai pas dans cet épisode-là. Par contre, la peur, c'est une question, un, d'association dans le cerveau, c'est-à-dire comment est associé le résultat, si on veut, quand tu passes à l'action malgré la peur dans ton cerveau. C'est relié au courage et, comme je disais, c'est relié à la capacité de faire des deuils. Et ça, pour moi, c'est une révélation dernièrement que l'on peut développer cette capacité-là à faire des deuils. Et c'est pour moi une des plus grandes qualités spirituelles que l'on peut développer parce que ça implique la résilience et l'acceptation. L'acceptation de ce qui est, l'acceptation que la souffrance existe. Je l'ai déjà dit, c'est une vérité bouddhique, la souffrance existe. Et juste le fait d'accepter ça et d'accepter qu'on vit des moments de souffrance est suffisant pour diminuer la souffrance. Parce que si tu as lu un peu de livres reliés à la spiritualité, si tu as suivi un peu d'atelier, tu sais très bien que c'est la résistance à la souffrance qui crée le plus de souffrance. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrivent facilement à prendre des décisions et à passer à l'action et d'autres qui en sont incapables, qui restent figés? Il y en a que même malgré le fait de me consulter, ils n'ont jamais réussi à prendre la fameuse décision qu'ils savent très bien qu'ils doivent prendre. C'est qu'au départ, Il y a trois façons hein, de faire face au danger, j'en ai parlé souvent, soit l'attaque, la fuite ou le figement. Et tout ça, maintenant, on sait que c'est relié au nerf vague. Et le nerf vague, cette espèce d'habitude qu'a notre système inconscient ou automatique de prendre l'une ou l'autre des trois avenues dans le nerf vague, est conditionné, semble-t-il, en fonction de nos expériences passées, donc de nos programmations, de nos habitudes. Comment est-ce qu'on a agi dans notre vie? Si on a eu plusieurs peurs, figements, plusieurs traumas dans notre vie, ben, il y a de fortes chances que dans notre vie de tous les jours, quand vient le temps de prendre des décisions, la voie qui est prise par notre système nerveux dans le nerf vague est celle du figement. On va éviter toute action pour éviter de rempirer la situation. On va littéralement figer. Or, figer dans le monde adulte, dans le monde humain, pour notre épanouissement, j'allais dire, est probablement, c'est pas probablement, c'est une certitude, c'est la pire des voies, c'est la pire des décisions à prendre. Les gens qui ont du succès, les gens qui prennent des bonnes décisions, j'oserais dire même les gens qui sont riches, qui sont millionnaires, j'en ai déjà parlé, sont des gens, et ça on voit ça en modélisation, en PNL, lorsqu'on modélise les comportements, les micro-indices d'accès, les métaprogrammes, les gens qui ont du succès passent à l'action rapidement. Il n'y a pas de niaisage, il n'y a pas de suranalyse. Ils passent à l'action et s'ils se trompent, ils repassent à l'action. Ils se rendent compte que le mouvement est mieux que le figement. J'en ai parlé. Qu'est-ce qui fait qu'un gars a pu devenir millionnaire au moins 4 fois? Il a fait faillite, il est redevenu millionnaire. Alors que bien d'autres personnes, on voudrait tout être riche, on voudrait tout être millionnaire et pourtant on ne le fait pas. C'est que c'est une personne qui n'a pas peur du risque. C'est une personne qui prend de grands risques. Oui, ça l'a amené à refaire faillite, mais ça l'a amené à redevenir millionnaire. C'est des gens qui ont développé une tolérance à l'incertitude. L'incertitude, ça veut dire accepter que je n'ai pas de sécurité absolue. Et c'est un travail, ça. Ça demande des efforts, ça demande de la reprogrammation si ce n'est pas naturellement ce qui a été acquis au fil de nos expériences, au fil de notre éducation. Et ça va amener les gens dans deux types de réflexions. Et ça, c'est le bout important. Il existe deux types de façons de penser, de réflexion face à la prise de décision. Il y en a une qui est négative et il y en a une qui est positive. La négative, c'est celle qui amène les gens à l'hyperanalyse et au figement. J'ai fait un épisode là-dessus, plus tu analyses, plus tu paralyses. C'est-à-dire que ces gens-là vont rechercher la perfection. Mais la perfection égale stagnation, figement et anxiété et à long terme, comme je le disais, burn-out et dépression. Parce que tu restes constamment dans des énergies, dans des émotions négatives et tu bouges pas. La recherche de la perfection vient de la peur de se tromper et de l'incapacité à faire des deuils. Le deuxième type de réflexion, celle qui est positive, c'est la recherche de la meilleure option. Ou je dirais de la meilleure option à moyen et à long terme, pour notre épanouissement, pour notre développement et notre avancement. Et ça, pour y arriver, il ne s'agit pas d'analyser à outrance jusqu'à trouver la solution parfaite. Il s'agit, un, d'évaluer l'option qui va apporter le plus de bien-être et d'équilibre et d'épanouissement à long terme. Et ça, la majorité des gens le savent déjà. Ils viennent dans mon bureau puis ils savent. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est au niveau émotionnel d'arriver à passer à l'action. Mais si des fois, tu as de la difficulté à évaluer l'option qui va t'apporter le plus de bien-être, ben, cette option-là, elle s'évalue de deux façons. Elle s'évalue soit logiquement, hein, avec les causes à effet, on se connaît bien, et elle s'évalue émotionnellement. Nous, en hypnose, on va utiliser la technique de Dickens, c'est-à-dire que tu fais vivre la décision à la personne. Tu la mets en état de transe et là, tu lui dis, écoute, imagine que tu prends cette décision-là. Qu'est-ce qui se passe demain? Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours? Qu'est-ce qui se passe dans 1 semaine? Et on accompagne la personne à travers son imagination, son ressenti dans son corps, pour vivre jusqu'à plusieurs mois, voire plusieurs années, la situation. Ensuite, on la fait revenir dans le présent et on fait le même processus s'il n'y a pas de décision qui est prise ou si elle prend l'autre décision qui est l'autre choix. Et assez rapidement, on le voit dans le corps, la personne le ressent dans ses émotions et à la sortie de la technique, la personne sait clairement ce qui, à moyen et long terme, est le meilleur choix pour elle. Donc, après avoir évalué l'option qui va apporter le plus d'équilibre, de bien-être, d'épanouissement à long terme, il s'agit de mettre en place les actions et les stratégies qui sont nécessaires pour mener à bien, on va dire, ce nouveau chapitre-là de vie, cette nouvelle décision-là. En fait, c'est qu'est-ce que ça prend? Exemple, je veux quitter un emploi, ben c'est quoi les actions? Peut-être que je vais avoir à prendre des formations. Peut-être que je vais avoir à préparer un budget de secours, genre d'économie pour la transition. Peut-être que je vais, c'est tout simplement d'aviser mon patron, peu importe. Il y a des stratégies, des actions à mettre en place et auxquelles on va devoir se tenir par la suite. Ensuite de ça, en troisième étape, ben, il faut accepter de faire des deuils de ce qu'on va perdre. Connaissez l'expression qui dit « on fait pas d'omelette sans casser des œufs » Ben, il faut accepter la souffrance, il faut accepter que ce choix-là va apporter durant un certain temps, qui peut être très court, comme qui peut durer quelques mois, voire plus, qui va apporter une certaine tempête dans notre vie. Mais l'incapacité à faire des deuils inhibe notre capacité à nous engager pleinement dans une décision. C'est une habileté à développer. La même chose, l'incapacité à faire des deuils, par exemple le deuil d'une ancienne relation, inhibe notre capacité à nous engager pleinement dans une nouvelle relation. L'incapacité à faire le deuil d'une certaine liberté ou d'un certain choix ou autre inhibe notre capacité à nous engager pleinement dans ce qu'on veut faire, dans ce qu'on veut choisir. Et accepter de souffrir, accepter ces deuils-là, ça se développe. J'ai d'ailleurs fait un épisode là-dessus qui s'appelle « Accepter de souffrir pour arrêter de souffrir », qui est l'épisode 47. Qui m'avait été inspiré suite à un choix difficile, déchirant, douloureux, souffrant que j'avais à faire, mais je ne pouvais plus continuer. Parce que souvent, si on ne fait pas le changement, c'est une mini-douleur ou un mini-malaise qui perdure au fil des mois et des années. Et à un certain moment, ben, il faut prendre une décision qui fait beaucoup plus mal à court terme, mais qui à long terme va faire du bien. Hein, j'appelle ça la technique du plaster. Vous savez, quand on était jeune, notre mère, il fallait enlever un plaster. Le plaster était pris dans la gale, était pris dans le poil, il y avait de la saleté, on ne voulait pas l'enlever. On essayait de tirer doucement, mais ça faisait trop mal. C'était quoi la bonne technique? C'était la technique de notre mère. Un bon petit coup sec, tout, c'était enlevé. Ça faisait très mal sur le coup, mais rapidement après, on devenait bien. Parce qu'en fait, là, tout passe. Toutes les souffrances finissent par passer. Souvenez-vous, je ne sais pas moi, d'une ancienne relation. Moi, je me souviens des amours de jeunesse que j'ai eu, des peines d'amour incroyables à l'adolescence où j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire pour moi. Même mon divorce, j'ai énormément souffert de ça au départ quand ça s'est fait et aujourd'hui, cette douleur-là ne veut plus rien dire pour moi. Je suis en bon terme avec mon ex-femme, tout est beau, on est très conscient qu'on est beaucoup plus heureux maintenant qu'on l'était ensemble. On a tiré des apprentissages, on a eu du bon temps ensemble, mais le temps a fait qu'on a pris des chemins différents et que cette décision-là, quoique extrêmement douloureuse et qui fut une tempête pour tout le monde autour de nous, la famille, les enfants et tout, fait que quand même, à moyen terme et à long terme, c'était la meilleure décision. Il faut réaliser, les amis, que le temps est limité. Plus on perd du temps à prendre des décisions, plus la douleur augmente, plus ça va être difficile et plus on passe à côté de notre vie, littéralement. La vie est faite de chapitres. La vie est faite d'étapes. Il faut développer la capacité à fermer des chapitres pour ouvrir de nouveaux chapitres qui sont plus adéquats pour nous parce qu'on évolue. La personne que tu es maintenant, c'est pas la personne que tu étais il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et tu n'as possiblement plus les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes désirs. La vie, c'est le mouvement. Et faites attention, ouvrir un nouveau dossier pour faciliter la fermeture d'un autre va apporter moins de détresse émotionnelle et psychologique, mais va pas apporter plus de bien-être. On le voit beaucoup dans les couples, hein, ce qu'on appelle les rebounds, ou quand les gens vont tout simplement trouver quelqu'un d'autre pour quitter une relation dans laquelle ils sont pas bien parce qu'ils sont pas capables de le faire. Ça cache beaucoup de choses derrière, dont de la dépendance affective. Et à travers ça, il n'y a pas d'apprentissage qui se fait. Et vous ne réglez rien. C'est beaucoup plus adéquat de fermer un chapitre avant d'en ouvrir un autre pour notre bien-être à long terme, pour l'apprentissage et pour notre développement. N'oubliez jamais que l'action développe la confiance et pas l'inverse. C'est lorsqu'on passe à l'action, à répétition, qu'on finit par développer notre confiance. Si on attend d'avoir confiance pour passer à l'action, il ne se passera rien. Parce que c'est une question d'association dans le cerveau. Je vous en ai déjà parlé, moi, ce qui a changé complètement ma vision ou mon association dans le cerveau à la peur, parce que moi, j'étais un polytraumatisé, donc quelqu'un dont le nerf vague prend toujours la voie du figement et de l'inaction. Ben, c'est le fait d'avoir marché sur le feu. Le fait d'avoir marché sur le feu m'a permis d'associer dans mon cerveau que quand j'agis malgré la peur, ce qui se passe après, ce n'est pas du danger, c'est de la récompense. Et ça, c'est important ce que je te dis là. Cette action-là m'a permis d'associer dans mon cerveau que si j'agis malgré la peur, c'est pas du danger qui arrive après, c'est de la récompense. À partir de là, j'ai multiplié les actions du même genre, comme le fait de démissionner du RTC, ce qui fait que maintenant, au lieu que mon système nerveux prenne la voie du figement, il prend la voie de l'action. Lorsque j'ai peur, lorsque je suis inconfortable, automatiquement, ce que j'ai envie, c'est de bouger, de faire des changements, parce que je sais très bien qu'après ça, se retrouve la récompense et le bien-être. Et je sais très bien que si je commets une erreur et que ce n'est pas le cas, ben je vais pouvoir rebouger encore jusqu'à temps que je retrouve le bien-être, jusqu'à temps que je retrouve mon objectif. En fait, ça amène à développer la capacité à tolérer l'incertitude. À quel point tu es capable de faire face à la vie dans l'incertitude. Et je sais qu'aujourd'hui, un des plus grands fléaux, c'est l'anxiété. L'anxiété, c'est quoi? C'est cette espèce d'incapacité à faire face à l'incertitude. On veut tout contrôler, on se projette dans le futur, on voit des choses qui arriveront probablement jamais, on est stressé et ça crée de l'anxiété. Ça, il y a un travail profond sur soi à faire. Et je trouve ça triste parce que présentement dans la société, quand on parle d'anxiété, on nous parle de stratégie d'évitement constamment. Comment je dois gérer mon anxiété? Comment je dois faire ça? Ah, moi, je suis une personne anxieuse. Puis là, on se met des étiquettes. Non. L'anxiété, c'est un messager comme n'importe quelle autre émotion qui est interprétée d'une certaine façon. C'est à toi d'aller changer tes programmations, puis c'est à toi d'aller jouer sur tes interprétations et à trouver des fondements de vie sur lesquels t'accrocher. Et ça se développe. Moi, je l'ai développé récemment. Je travaillais beaucoup sur faire confiance en la vie. J'ai fait une vidéo sur Facebook récemment parce que lors de mon voyage en Martinique, J'ai été faire de la plongée en apnée, puis j'ai oublié mon cellulaire dans mes poches. Et à la sortie de ça, je me suis dit, OK, là, je suis dans la merde. Si mon cellulaire ne fonctionne plus, je suis sur une île où je connais personne, où j'ai pas d'accès, où j'ai pas de GPS, où je sais pas où je m'en vais et je peux plus communiquer avec personne. Et j'étais totalement surpris d'avoir constaté à quel point à l'intérieur de moi, j'étais calme. Même si mentalement, j'étais capable d'analyser tous les risques possibles, je suis resté calme. Ben là, j'ai pu remarquer que le travail que je fais sur moi, sur faire confiance en la vie depuis le mois de décembre, commençait à porter ses fruits. Donc, développer la capacité à faire confiance à la vie pour tolérer l'incertitude. J'en ai parlé souvent, c'est un peu comme une vision, hein? L'enfant qui prévoit Noël qui arrive, là, est-ce qu'il est en train de stresser sur ce qui va arriver ou il est heureux de se dire quel beau cadeau je vais recevoir? Ben, c'est un peu cette perception-là face à la vie qu'on doit avoir et qui doit changer. D'ailleurs, j'ai fait un épisode là-dessus sur l'insécurité et les perceptions, qui est l'épisode 71, qui est un, je crois, des plus importants que j'ai fait, où j'exprime vraiment les fois dans ma vie où j'ai eu peur, où j'étais figé, où ma vie allait pas bien, et que finalement, c'est l'action qui m'a sorti de la merde. Si j'avais voulu rester dans la sécurité, si j'avais choisi de rester dans la sécurité et de me protéger, je ne serais probablement pas là ici en train de vous parler. Alors je vous invite ou je t'invite à aller l'écouter cet épisode-là si ça n'a pas été fait. Ensuite de ça, pour faciliter et s'assurer d'une bonne transition ou on va appeler ça de changement de chapitre, ben, il y a des petites étapes à faire. Un, faire un bilan. Un bilan pour tirer du sens de ce qu'on a vécu, de ces situations-là ou de ce chapitre-là. Tirer des apprentissages de ce qu'on a fait pour trouver du sens aux événements ou au chapitre, mais aussi pour s'en servir pour le prochain chapitre. Un, pour ne pas répéter les erreurs. Hein, qu'on a commis, parce que ça, on le voit souvent, des gens qui vont quitter une relation parce qu'elle est toxique, puis finalement, ils retournent dans une relation toxique parce qu'ils n'ont pas vraiment appris de leurs erreurs. Ils n'ont pas transformé ce qu'il y avait à transformer à l'intérieur. Et ensuite de ça, ben, on se dirige vers le processus graduel de désengagement comportemental, cognitif et émotif, c'est-à-dire comportemental. Ben, c'est plus facile de le mettre, par exemple, face à une relation. Ben, si je dois me désengager d'une relation au niveau comportemental, ben, ça se peut que j'arrête de voir la personne, même si c'est souffrant. Ça se peut que j'arrête de lui écrire pour un certain temps. Question de garder mon focus ailleurs. Au niveau cognitif, ben, je vais contrôler mes pensées. Au lieu de me mettre constamment à penser à cette personne-là, aux souvenirs que j'ai eus avec elle, aux bons moments passés, ben, au niveau cognitif, je vais m'arranger pour focusser sur autre chose, sur focusser sur l'avenir. Puis au niveau émotif, ben, le désengagement est encore plus un processus graduel qu'on appelle le deuil, littéralement. On va passer par de la résistance, par du déni, par de la colère et tout ça, puis éventuellement arriver tout simplement à l'acceptation de ce qui est. On a tous eu des deuils obligatoires à faire. Tu sais, on s'est tous déjà fait, par exemple, quitter, puis t'as pas le choix, il n'y a pas de retour possible, faut que tu le vives ton deuil. On a tous perdu quelqu'un par la mort. Moi, j'ai perdu mon père il y a 2 ans. Et oui, il m'arrive encore de me dire, mon Dieu, que j'aimerais ça pouvoir l'appeler aujourd'hui, j'aimerais ça pouvoir y parler. Mais le gros du deuil est fait, parce que j'ai appris à faire des deuils et à me préparer intellectuellement pour les deuils. Ensuite de ça, ben, on garde le focus sur l'avenir, sur le sens, sur les gains futurs. Votre esprit, là, vous devez le contrôler. Si tu le laisses aller, ton esprit, si tu le laisses faire, il va aller à droite, à gauche, en haut, en bas, il va tirer partout et il va générer des émotions. Parce que la pensée génère l'émotion et l'émotion alimente la pensée. Donc, c'est à toi de diriger la pensée pour éventuellement générer des émotions et garder le cap, garder le focus. Le mouvement et le sens, hein, on parle de donner du sens à sa vie, sont plus importants pour le bien-être, pour l'épanouissement, pour le bonheur que la perfection et la sécurité absolue. Même si beaucoup de personnes, particulièrement parmi les Québécois, on aime donc la petite sécurité puis se faire materner par tout le monde, par le gouvernement et tout. Il n'y a pas de bonheur possible dans ça. C'est le mouvement et le sens sont plus importants pour le bien-être et l'épanouissement puis le bonheur que la sécurité absolue et la perfection. Et c'est important pour ça, pour avoir du sens dans notre vie, que le cœur et la tête soient alignés. C'est-à-dire ce que je pense, ce que je fais et ce que je ressens, et ça fonctionne ensemble. Et en fait, c'est ça le but de prendre une décision. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, tu te sens obligé de prendre une décision puis que tu n'apprends pas, mais que le besoin de prendre une décision est là? C'est que tu sens très bien qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui n'est pas aligné entre ce que tu désires et ce que tu penses. Entre tes peurs puis tes envies. Que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport au couple, il y a un désalignement. Donc, l'objectif, c'est d'amener un alignement. Est-ce que c'est nécessairement de quitter ou de rester? Pas du tout. Des fois, il y a un paquet de choses à faire entre les deux que les gens ne voient pas. Et pour ça, des fois, ben, c'est mieux de consulter, d'aller demander de l'aide de quelqu'un d'extérieur pour, on va dire, clarifier un peu ce qui nos idées et ce qui peut être fait. Parce que ça, souvent, c'est très difficile de le faire par soi-même parce que, comme on dit, on a la face collée sur l'arbre, hein? On ne voit pas la forêt. D'ailleurs, si c'est ta situation, je t'invite à me consulter, je t'invite à me contacter. Tu peux aller sur mon site pascalbrousseau.com. Il y a un bouton prise de rendez-vous. Il y a même une possibilité d'avoir un appel découverte de 30 minutes avec moi pour voir si ça te convient et si ce que j'ai à t'offrir va être efficace pour toi. Parce que rester dans une situation comme ça où on n'est pas aligné amène automatiquement des problèmes émotionnels, voire des problèmes psychosomatiques. Donc, en conclusion, la recherche pour prendre une bonne décision, il faut rechercher la meilleure option à moyen ou à long terme en évaluant l'option qui va apporter le plus d'équilibre, de bien-être et de bonheur à long terme. Ensuite, il faut mettre en place les actions et les stratégies nécessaires pour le faire pour ensuite accepter de faire face au deuil, à la souffrance et à la tempête qui va s'en venir. Et pour faciliter ça, faciliter cette transition-là face à la tempête, ben de faire un bilan. Un bilan pour tirer des apprentissages et tirer un sens à tout ce qu'on vient de vivre, à ce dernier chapitre-là qui en fait ne nous convient plus. Tirer des apprentissages et du sens pour s'en servir pour le prochain chapitre. Un, pour ne pas répéter les erreurs, mais deux aussi, pour avoir l'énergie de le faire. Parce que le sens à notre vie donne de l'énergie, donne de la motivation. Et ensuite, on entame le processus graduel de désengagement comportemental, cognitif et émotif pour tranquillement laisser aller ce qui était passé et s'engager vers le futur. Parce que je l'ai dit, c'est impossible de s'engager si on n'est pas capable de faire un deuil. Et ensuite, on garde le focus sur l'avenir, en focusant sur le sens du choix qu'on a fait et sur les gains futurs qui vont venir. Et malgré tout ça, malgré toutes ces belles petites stratégies-là, psychologiques, qui viennent d'études, le plus difficile restera toujours d'accepter de traverser la tempête. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile quand on est souverain. C'est plus facile quand on est affranchi de la culpabilité et de la peur. Parce que plus il va y avoir de la culpabilité et de la peur, plus il va y avoir du figement. Donc, une des stratégies serait peut-être de devenir souverain. Parce que plus tu vas travailler à t'affranchir de la culpabilité et de la peur, plus l'estime, l'amour et la confiance en toi vont monter. Et c'est sûr que quand on est armé d'une bonne estime de soi, de beaucoup d'amour de soi et une bonne confiance en soi, ben c'est plus facile de faire face aux tempêtes et de ne pas vivre dans la peur de se tromper et surtout de résister à la critique extérieure. Parce que tu le sais, quand tu fais des choix qui amènent des tempêtes, tu n'es pas la seule à être éclaboussée, les autres vont être éclaboussés et ça va générer de la culpabilité et les autres vont te le faire sentir. J'ai vu des cas, moi, une femme était plus heureuse en couple et tout le monde s'en est mêlé. Oui, les enfants, oui, le conjoint, mais même ses propres parents à elle, ils ont dit que si elle quittait, ils allaient la renier. Et ça, c'est épouvantable. Au lieu d'écouter le besoin de la personne, de dire « je ne suis plus heureuse », ils préféraient eux autres leur petit bonheur d'image de famille parfaite au point de renier leur propre fille. Et ça, c'est plate, mais il faut être capable de faire face à ça aussi et d'être assez solide. Je t'invite, si tu penses que tu as besoin d'être plus solide, si tu as besoin de développer plus d'outils pour ça, je t'invite à me contacter, à peut-être prendre un appel découverte, à me consulter, ou peut-être même à prendre un de mes ateliers ou formations, dont celui qui est en cours présentement, qui est l'atelier le plus complet que je donne et qui revient le plus, mon Dieu, le moins cher, si on veut, le plus avantageux niveau qualité-prix, qui est « Deviens une femme souveraine ». À la date où va sortir cet épisode-là, le lundi, ben, le dimanche suivant, ça commence, l'atelier commence. Donc, si tu écoutes ça dans la première semaine où le podcast, cet épisode-là est sorti, il est toujours temps pour toi de t'inscrire. Sinon, ben, tu peux regarder sur mon site pascalbeausseau.com et les prochains ateliers vont sortir. Parce que moi, je t'encourage vraiment à prendre une décision malgré la tempête si tu es pris dans ça, si tu es pris dans cette espèce d'indécision-là qui, au final, va t'amener plus de problèmes que de prendre une décision. Parce que mon expérience me démontre, tant chez moi, dans mes propres prises de décision personnelles, que les gens que j'ai vus autour de moi, que j'ai accompagnés, personne ne regrette. Je n'ai jamais trouvé personne qui, voulant quitter un emploi, mais en ayant peur, l'avait regretté, ou qui, voulant quitter une relation parce qu'elle n'était pas bien, au final, l'avait regretté. Je n'en connais pas. Moi, j'avais peur en quittant le RTC parce que je perdais une sécurité d'emploi, je perdais un fonds de pension assuré, donc une belle retraite là, à 60 ans avec l'argent qui rentre facile. Ben, j'ai préféré faire le deuil de ça et d'avoir un gain sur ma liberté et mon épanouissement. Et je suis convaincu encore en date aujourd'hui que c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, malgré les tempêtes que j'ai rencontrées et les difficultés financières au départ. Donc, à toi de voir, à toi de décider. Je t'invite à partager encore cet épisode-là autour de toi si tu penses que ça peut aider, réveiller, shaker quelqu'un. Je t'invite à t'abonner aussi pour recevoir les notifications de tous les épisodes qui sortent le lundi matin à 6h. Sur ce, ben, je te remercie énormément d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Je te salue et je te dis à la prochaine pour un autre épisode.